Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération IA. Ça faisait longtemps, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas tourné un épisode. Le dernier, ça devait être de tête en août 2025 et on est fin mars 2026. Alors oui, je parlais que 75% des podcasts ne dépassaient pas les 10 épisodes et je ne voulais pas que ça arrive à Génération IA. Mais il se trouve qu'il s'est passé énormément de choses depuis la fin de l'année dernière. Entre-temps, j'ai déménagé, je suis devenu papa, j'ai voulu prendre du coup du recul par rapport à tout ça, profiter de la naissance, profiter de la fin de la grossesse, et puis professionnellement, beaucoup de projets, beaucoup de mouvements, et vous savez ou vous savez peut-être pas que je fais ce podcast de manière 100% bénévole, il n'y a aucun sponsor, et puis d'ailleurs j'en profite pour dire que aucune IA n'est utilisée pour faire le script de ce podcast justement. Je veux parler d'IA, mais de façon totalement brute, en prenant justement un contre-pied, parce que je trouve assez insupportable toutes les IA sur les réseaux sociaux, notamment qui polluent les réseaux et qui du coup, noient un petit peu les interactions humaines sous ce qu'on appelle AI slope, c'est-à-dire des contenus générés par IA qui sont pas vraiment travaillés, qui sont très automatisés, et on en parlera. Mais bref, tout ça pour dire que si vous voulez soutenir le podcast afin de faire plus d'épisodes, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, Spotify, Apple Podcast, peut-être Deezer ou autre. Et voilà, on va commencer avec ce nouvel épisode. On va reprendre vraiment là où on s'est arrêté, mais de façon condensée parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et ne vous inquiétez pas si vous paniquez, parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, il y a une nouvelle hype autour de Claude Code, cet outil formidable pour écrire du code informatique avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et il semblerait qu'il y ait des gens qui proposent des formations pour se former à Claude Code et qui ont désormais envahi les réseaux sociaux et qui profitent de cette hype pour vendre leur formation, ce qui est très bien. Je ne critique pas du tout les gens qui vendent des formations, à condition qu'elles soient de qualité. Mais il semblerait que ça devienne un peu trop. Et surtout, une panique commence à envahir certaines personnes qui ont peur que leur travail soit remplacé, par exemple. Et on va voir que parfois, à juste titre, parfois pas. Et il y a une ribambelle de nouveaux outils, et ce qui devient très difficile à suivre, parce que la plupart des gens, comme vous et moi, sommes occupés, ont une famille, ont une vie sociale, ont un travail, et il faudrait quasiment être à plein temps pour pouvoir suivre toutes ces évolutions, changer d'outils en permanence. Donc je vais vous donner ici mon point de vue, ne vous inquiétez pas, pas de panique avec tous les nouveaux outils, Claude Code, Claude Cowork, Claude Dispatch, qui sont des outils formidables, et même peut-être OpenClaw, si vous en avez entendu parler. Si vous ne les maîtrisez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Et on va voir pourquoi. Et surtout, ne paniquez pas. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous voulez vraiment vous former à ces outils, la meilleure façon de faire, c'est simplement de les utiliser et de leur demander à comment les utiliser. J'avais spécifié dans d'autres podcasts que l'intelligence artificielle et tous les outils autour sont en quelque sorte les premiers outils qui vous expliquent eux-mêmes comment on les utilise. C'est assez magique. Si vous installez Claude Code, par exemple, ou que vous l'utilisez via la version bureau, vous lui demandez simplement, j'ai tel projet en tête, quelles sont les meilleures façons de travailler avec Claude Code pour arriver à ce résultat le plus rapidement, le plus efficacement possible. Et il va lui-même, si vous utilisez la dernière version, chercher par exemple les skills, les compétences dont il aura besoin pour ce projet. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître ces compétences par cœur. Et plus vous utilisez, plus vous allez vous familiariser avec ce genre d'outil. Claude Code, c'est un outil dont je parlais déjà l'année dernière. Il semblerait que ça y est, ça devienne mainstream, donc on était dans le vrai. Et d'ailleurs, je vais vous donner aujourd'hui, pour moi, les outils qui vont devenir mainstream dans 6 mois. Donc écoutez bien jusqu'à la fin ce podcast si vous voulez garder toujours une longueur d'avance, parce que c'est vrai que je suis absolument passionné de tout ça et que j'y passe vraiment énormément d'heures. Je teste quasiment tous les outils qui sortent, qui ont un peu de succès. Je travaille à côté de ça en freelance, donc je peux gérer un petit peu mes horaires, etc. Et je développe des applications. Notamment, je viens de sortir une toute nouvelle version de mon application de sport MyTrainer, disponible sur iOS et Android, qui est absolument incroyable, puisqu'elle utilise les derniers modèles d'IA dans l'application. Et du coup, c'est vraiment devenu un agent IA, un planificateur d'entraînement et de nutrition personnalisé, qui peut désormais se connecter à tes données de santé si tu es sur Apple et que tu as Apple Health, pour te créer des programmes d'entraînement de nutrition personnalisés afin d'atteindre tous tes objectifs. Et surtout, j'ai implémenté une mémoire. Donc le coach se souvient par exemple de tes blessures, ton sommeil, etc. Et je fais manger entre guillemets tout ça aux meilleurs modèles d'intelligence artificielle, qui ne sont peut-être pas ceux que vous pensez, mais j'ai fait des évaluations, parce que quand on développe des applications d'intelligence artificielle, avant on appelait ça des GPT wrappers, un peu d'un air moqueur en disant que tous ces GPT wrappers ne fonctionneraient pas. Eh bien, il semblerait que OpenClaw est entre guillemets un GPT wrapper, puisque c'est un outil d'orchestration d'intelligence artificielle et pourtant ça cartonne. De même pour Claude Code qui n'est pas un modèle d'IA en lui-même, mais qui agence des requêtes d'intelligence artificielle entre elles, qui organise ces requêtes, on appelle ça de l'orchestration, et qui donne des résultats absolument incroyables. Eh bien, MyTrainer est aussi un outil d'orchestration, c'est-à-dire que j'utilise les meilleurs modèles d'intelligence artificielle pour le sport, en se basant sur différents profils. Je teste tous les modèles, ensuite je les passe à des coachs de renom qui vont eux-mêmes évaluer et me faire un retour. Et puis, je peux aussi évaluer les résultats avec d'autres intelligences artificielles elles-mêmes. Donc, je vous invite à tester l'application MyTrainer que j'ai développée et qui a un gros succès en ce moment. C'est bientôt l'été, on se reprend en main. Et puis, il faut quand même s'entretenir, parce que si vous aimez l'intelligence artificielle comme moi, vous passez certainement beaucoup d'heures devant votre ordi, assis. Et la sédentarité est vraiment un poison. C'est le poison du 21e siècle, même pour les hormones et pour le cerveau. Il y a justement des scanners qui ont été réalisés sur l'activité cérébrale assise et en marchant, par exemple. Et on remarque que lorsqu'on est assis, l'activité cérébrale est bien moindre. De même que lorsqu'on lit sur un livre et lorsqu'on lit sur un écran, ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Je pose ça là, ça n'a rien à voir avec le sport, mais ça me vient en tête. Et voilà, ce podcast est brut, donc je vous parle de ce qui me passe par la tête, bien sûr, en essayant de garder cette ligne conductrice de l'intelligence artificielle. Donc voilà, nous sommes fin mars 2026. Vous avez testé des solutions d'IA, vous utilisez ChatGPT, Claude peut-être, mais ce n'est pas aussi prometteur que ce que vous vendent les gens sur les réseaux sociaux ou ce que vous voyez, ou c'est très prometteur d'ailleurs aussi. Eh bien, vous êtes bien tombé, on va vraiment faire un tour d'horizon rapide. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière? On avait dit que l'année 2026, ça c'était la grande tendance fin 2025, on disait que l'année 2026 serait l'année des agents IA. Eh bien, on y est. Les agents IA, ce sont simplement des modèles d'intelligence artificielle qui sont connectés à des outils externes et des API externes pour communiquer, par exemple, avec d'autres logiciels ou d'autres applications. De fait, ces modèles d'intelligence artificielle devront prendre des décisions. C'est ça, pour moi, vraiment la vision agentique de l'intelligence artificielle. C'est lorsque l'IA va prendre des décisions d'utiliser certains outils au profit d'autres outils, par exemple, ou ne pas utiliser d'outils. Exemple. Vous voulez, par exemple, développer une application, eh bien, l'intelligence artificielle va d'abord rechercher sur Internet quelle est la meilleure façon d'utiliser telle ou telle technologie. Et donc ça, la fonction de recherche sur Internet est un outil qui est connecté à l'intelligence artificielle. Vous voulez réserver des vacances? Eh bien, l'intelligence artificielle va par exemple se connecter à Booking.com pour analyser quelles seraient les meilleures disponibilités pour vos vacances, rechercher des hôtels, etc., etc. Ce qui est vraiment fou, c'est que du coup, bah, plus le modèle est intelligent, plus il prendra les bonnes décisions. Donc, c'est quand même important d'utiliser des modèles intelligents. Et il y en a des nouveaux qui sont très puissants, notamment du côté d'Anthropic avec les derniers modèles de Claude, Opus et même Sonnet qui sont très bons. De même, du côté d'OpenAI avec le modèle GPT-5.4 qui est vraiment très très bon. Et surtout, on a désormais des modèles open source qui sont devenus très intelligents. Et cela nous vient de la Chine, les modèles chinois. Qui l'eût cru que la Chine, qui est quand même assez verrouillée politiquement, puisse devenir le leader de l'intelligence artificielle open source? Alors, je pense que c'est une stratégie pour eux, pour disrupter les acteurs américains. Et c'est très, très dangereux. Les acteurs américains ont une peur bleue des modèles d'intelligence artificielle chinois et des laboratoires chinois. On a vu par exemple qu'Anthropic avait interdit l'utilisation de Claude à des laboratoires chinois qui étaient accusés en fait de distillation, c'est-à-dire qu'ils utilisaient les modèles d'Anthropic pour entraîner eux-mêmes leurs propres modèles pour se rapprocher de l'intelligence des modèles d'Anthropic. C'est assez ironique, sachant que Anthropic a utilisé toutes les données disponibles sur Internet sans forcément les copyrights, etc. Donc là, quand les Chinois font la même chose, ils sont accusés. Mais bon, ça se discute parce que Anthropic, OpenAI et tous les Américains utilisent évidemment un amas de données considérable. Mais du coup, voilà pour la vision agentique de l'intelligence artificielle. On y est. Nous sommes en 2026, les agents IA sont là, sont de plus en plus là, et parfois ne sont pas encore en production, mais le sont de plus en plus. Aux États-Unis, par exemple, les systèmes d'intelligence artificielle agentique s'intègrent parfaitement dans des entreprises. Désormais, c'est devenu quelque chose de classique, et à San Francisco, vous avez plein de pubs dans la rue pour des entreprises d'intelligence artificielle. Sur les panneaux d'affichage, c'est assez fou. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas moi-même allé à San Francisco, malheureusement, j'aimerais bien. Mais peut-être bientôt, qui sait. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses là-bas dans l'intelligence artificielle, notamment avec l'incubateur de startup Y Combinator qui regroupe vraiment que des pépites. Donc, nous en sommes ici. Jensen Huang, le patron de NVIDIA, vous savez, le concepteur de puces électroniques, avait déclaré début 2025 que bientôt les départements IT, donc techniques, tech des entreprises deviendront des départements de ressources humaines pour les agents IA. Eh bien, nous y sommes un peu. Quand je vois mon travail, par exemple, je passe mon temps en fait à gérer des intelligences artificielles, à les coordonner, à les orchestrer, et à tester le résultat et valider le résultat si c'est conforme à ce que j'attendais ou pas. Donc, voilà pour 2026, et on peut voir que la course est acharnée. Google, Anthropic, OpenAI, Microsoft, Amazon investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Il y a des chiffres comme ça qui montrent que vraiment, certaines grosses entreprises préfèrent investir tout leur cash dans l'intelligence artificielle parce qu'ils ne veulent surtout pas perdre cette course. Ils préféreraient mourir que perdre la course de l'intelligence artificielle. Et tout se joue maintenant. On a vu d'ailleurs que OpenAI vient d'arrêter le service de Sora, son générateur de vidéos. En fait, il faut savoir qu'il y a une crise interne chez OpenAI, le créateur de ChatGPT, depuis début 2026, notamment causée par Anthropic, qui développe vraiment des outils incroyables et qui est en train de gagner cette course de l'intelligence artificielle, notamment dans les entreprises, dans l'intégration de leurs outils dans les entreprises. Et donc, OpenAI se recentre, se refocus, parce qu'ils se sont vraiment étalés en créant une application Sora de génération de vidéos par intelligence artificielle, concurrente un petit peu à TikTok, mais pour l'IA, en créant un navigateur internet avec ChatGPT Atlas qui a été un petit flop quand même, j'ai l'impression. Et donc, ils se sont défocus des entreprises et même parfois des utilisateurs parce qu'on a vu quand même de temps à autre des baisses de qualité dans ChatGPT. Et j'ai vu des gens qui se plaignaient sur Internet de la qualité des réponses de ChatGPT, qui switchaient sur Anthropic. Bon, il faut savoir que la qualité peut varier d'une semaine à l'autre, d'un modèle à l'autre, selon si vous avez un plan premium ou pas. Mais dans tous les cas, si jamais vous n'êtes pas satisfait d'une réponse, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que vous pouvez tester le concurrent juste après. C'est ce que je fais moi-même. Si je n'aime pas ChatGPT, je vais sur Claude. Si je n'aime pas Claude, je vais sur Grok. Parfois, je vais sur Mistral également. Donc, ça dépend des requêtes d'ailleurs. Je pense qu'on a tous nos façons de faire. À force de tester, on a nos petits workflows internes. Et par exemple, je sais que je vais sur Mistral, le chat, lorsque j'ai une requête simple et que je veux une réponse rapide, parce qu'ils sont assez rapides. Quand je veux vraiment quelque chose de complexe, j'utilise plutôt Claude. Et parfois, ChatGPT également. Donc, voilà, on a tous nos façons de travailler. La concurrence fait que du coup, on a beaucoup de choix et c'est tant mieux. Et donc, nous avons cette bataille acharnée. Qui sortira vainqueur, personne ne le sait. Moi, j'ai une opinion, mais qui reste une opinion. Je pense vraiment que les entreprises comme OpenAI et Anthropic, qui sont très puissantes en intelligence artificielle, ne sortiront pas forcément vainqueurs de cette course. Pourquoi ? Parce que toutes leurs entreprises dépendent de la qualité de leur modèle d'intelligence artificielle. Ce n'est pas comme Apple, par exemple, qui fait du hardware, qui fait des puces, des ordinateurs, et même Google qui propose tout un service de... tout plein de services différents, comme des serveurs, etc. OpenAI et Claude, vraiment, leur puissance, c'est qu'ils développent les meilleurs modèles. Et ensuite, ils créent des outils autour de ça, comme Claude Code, comme Codex pour OpenAI, qui est fantastique d'ailleurs. Mais la concurrence open source se rapproche de plus en plus de leur modèle. Et bien sûr, c'est beaucoup moins cher. Et lorsque vous utilisez énormément d'agents IA, comme dans OpenClaw par exemple, eh bien, vous allez pencher pour un modèle pas très cher, sinon vos factures vont exploser. Et si un jour les laboratoires chinois sortent des modèles aussi intelligents, voire plus intelligents que ceux d'Anthropic et d'OpenAI, eh bien, tout le monde va switcher sur leur modèle d'intelligence artificielle. Et vous avez des concurrents, par exemple, de l'outil Claude Code comme OpenCode, qui est la même chose en open source, qui peut très bien intégrer ces nouveaux modèles plus intelligents. Et tout le monde va switcher de Claude Code à OpenCode, en fait. C'est ce qu'on appelle le moat en anglais, c'est-à-dire l'avantage concurrentiel imparable, entre guillemets. Eh bien, je trouve qu'OpenAI et Anthropic n'en ont pas forcément. Mais voilà, ils sont tellement focus, ils sont tellement puissants. Leurs ingénieurs sont vraiment des cracks. Ils sont payés $500,000 par an avec des parts, etc. Donc, ils ont vraiment la crème de la crème. Mais les mecs, vraiment, ils font... une centaine de commits par jour. Des commits, c'est lorsque vous développez une nouvelle fonctionnalité et que vous envoyez le code sur en production, on va dire, pour simplifier. Les mecs sont extrêmement productifs, extrêmement inspirés, extrêmement bons. Ils gèrent eux-mêmes plein d'agents IA. Donc, le niveau qu'ont ces gars-là, c'est vraiment exceptionnel. Je leur tire mon chapeau. Maintenant, voilà, il faut tenir dans la durée parce que... avec toute cette hype de l'IA et lorsqu'on développe aussi fort des outils et qu'on est aussi focus tous les jours, eh bien, on fait des sacrifices, on voit moins sa famille, on voit moins ses amis. Et c'est un problème d'ailleurs qu'a révélé Benjamin Code dans une de ses dernières vidéos, qui est un super YouTuber qui parle de développement informatique. Avec ces outils d'intelligence artificielle surpuissants, lorsqu'on ne travaille pas, il y a une sorte de culpabilité. On pourrait utiliser les outils lorsqu'on ne travaille pas. Et du coup, on travaille énormément. Et quand on n'est pas productif, on se sent également coupable. J'aimerais clarifier vraiment quelque chose ici sur ce podcast. Ne vous sentez pas du tout coupable lorsque vous n'êtes pas productif. Car parfois, le fait de ne pas travailler, c'est ça qui vous rend productif. C'est ça qui vous donne les idées, c'est ça qui vous donne l'inspiration. Et développer du code tout le temps avec Cloud Code ou Codex ou d'autres outils n'est pas forcément bon. Je m'explique. Lorsque vous créez du code, vous créez également de la dette technologique. Alors oui, grâce à ces outils, nous sommes jamais vraiment bloqués comme avant, nous les développeurs, et on pourra toujours leur demander de résoudre, mais lorsque vous créez de la dette technologique, vous créez de la complexité. Et même si les modèles peuvent gérer cette complexité, eh bien peut-être qu'à un moment, votre codebase va devenir tellement grosse, tellement complexe, qu'ils vont devenir moins bons, ils vont inventer des choses, et ça va aussi vous coûter plus de tokens pour l'IA pour réfléchir aux nouvelles features à implémenter et réfléchir comment intégrer d'autres fonctionnalités dans le code existant. Donc parfois, prenez du recul. J'ai vu sur le réseau social X qu'un ingénieur avait mis en place le vendredi sans IA. C'est un concept qu'il a lui-même proposé, dans lequel tous les vendredis, il n'utilise pas d'intelligence artificielle pour développer. Alors c'est extrêmement difficile parce que du coup, on a l'impression qu'on revient à la préhistoire lorsqu'on écrit des lignes de code nous-mêmes, mais on peut très bien relire le code, comprendre l'architecture. N'hésitez pas à utiliser les outils d'IA d'ailleurs pour vous générer des diagrammes d'architecture de vos projets afin de garder quand même la main mise. J'avais vu ce commentaire du fondateur de OpenClaw, Peter, je me souviens plus de son nom de famille, mais qui disait justement que lui avait l'habitude avant de gérer plein de développeurs, donc il était complètement OK de ne pas maîtriser tout le code qui était écrit parce que quand il était lead technique avant, il gérait beaucoup de développeurs et donc il connaissait pas tout le code qui était en production et parfois même c'était pas du code optimisé comme lui l'aimerait puisque ça pouvait être des gens plus juniors qui développaient ça. Mais c'était la seule façon, entre guillemets, pour que ces personnes progressent et puis il ne pouvait pas être partout. Donc maintenant, quand il fait la même chose avec des agents IA, il est complètement OK de ne pas comprendre tout le code, de ne pas être au courant, de ne pas avoir relu tout le code qui est en production. Et je suis totalement d'accord avec lui. Maintenant, il faut garder en tête que il faut quand même comprendre l'architecture. C'est hyper important. C'est ce qui fait, je pense, la différence aujourd'hui entre quelqu'un qui va créer un projet ou qui ne va pas réussir à créer un projet avec l'IA, qui va être bloqué rapidement, et quelqu'un qui peut créer des logiciels extrêmement complexes jusqu'à OpenClaw. OpenClaw qui est cet agent IA qui s'appelait Moldbot, je crois, au début, et CloudBot également avant qu'Anthropic ne leur fasse un procès pour qu'ils changent de nom. Je peux en profiter peut-être pour en parler. Je suis désolé si je saute d'un sujet à l'autre, mais je pense que c'est important quand même d'expliquer les concepts parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. OpenClaw, c'est un outil qui est apparu fin 2025, je crois, en open source, mais qui n'a pas tout de suite attiré l'attention des gens. Et puis un jour, je ne sais pas comment, OpenClaw a explosé. C'est un projet open source d'IA agentique dans lequel en fait vous déployez OpenClaw sur votre ordinateur ou sur un serveur privé virtuel, sur un serveur en gros, et vous le connectez à n'importe quel modèle d'intelligence artificielle. Donc soit vous avez un abonnement, parfois ça passe, soit vous payez à l'utilisation, et vous pouvez parler à votre agent IA via une messagerie WhatsApp, Telegram, Discord ou autre. Et cet agent IA va être doté de tous les outils dont je parlais tout à l'heure et d'une mémoire. Et donc, il va pouvoir exécuter des tâches vraiment concrètes comme se connecter à vos emails, faire de la prospection, en fait, faire quasiment tout. C'est le but d'OpenClaw, de cet agent IA, c'est de pouvoir quasiment tout faire, d'être votre agent IA personnel. Et ça marche. Ça marche vraiment. Alors, bien sûr, il y a des bugs, il y a des limitations. Parfois, ça coûte très cher. Je travaille justement sur un projet là qui s'appelle Manifest, qui est un plugin OpenClaw afin de mettre en place un routing pour réduire les coûts d'intelligence artificielle dans OpenClaw de 90%, parfois 70%, mais vous pouvez même connecter votre abonnement ChatGPT, par exemple, à votre OpenClaw. Et donc, cet agent IA peut tout faire pour vous. Donc évidemment, il y a des risques, hein. S'il a un accès total à vos mails, eh bien attention au piratage. C'est encore en peaufinage, on va dire. Mais c'est un projet surtout open source, c'est-à-dire que le code est disponible et chacun peut y contribuer. Donc moi, je suis vraiment, je crois vraiment au projet OpenClaw. C'est déjà un projet qui est arrivé dans le top 10 des projets GitHub avec le plus d'étoiles. C'est-à-dire que c'est un des 10 projets les plus populaires open source de tous les temps, sauf qu'il n'existe que depuis quelques mois. Donc, je pense que c'est le projet open source qui a eu le plus de succès le plus rapidement de l'histoire. Même devant Linux, par exemple, qui est quand même ce qui fournit la base des systèmes d'exploitation pour tous les serveurs. Eh bien, je crois vraiment dans OpenClaw parce qu'il y a une communauté. Et quand vous regardez le projet GitHub, vous avez des milliers de pull requests, donc de gens qui proposent du code au projet OpenClaw. Donc même si le fondateur d'OpenClaw est seul, vous avez des milliers de contributeurs tous les jours qui améliorent le produit, qui résolvent les bugs. C'est pour ça que je pense au fond de moi que OpenClaw va battre CloudCode, va battre OpenAI Codex et tous les agents IA privés propriétaires, puisqu'ils vont se plugger sur les meilleurs modèles open source chinois, par exemple, et donc être moins chers, avec une communauté qui va résoudre les bugs et fournir toutes les fonctionnalités, ce qui fait qu'ils vont rattraper, voire dépasser Anthropic, OpenAI et d'autres. Même si je ne dis pas que pour les entreprises vont potentiellement préférer mettre en place des agents de Anthropic, d'OpenAI, etc. Mais pour les particuliers, je pense qu'OpenClaw va devenir la norme. Donc, je vous invite à tester OpenClaw. Il y a un peu de montage manuel. Je sais que maintenant, certains fournisseurs de cloud, comme peut-être Hostinger, AWS, etc., vous proposent de déployer un OpenClaw en deux clics. Je vous invite à le faire et à tester. C'est vraiment fascinant d'avoir un agent personnel IA qui peut faire des choses. Si vous ne l'avez jamais expérimenté, faites-le. Et bah, vous misez sur l'avenir. Quand je vous disais l'année dernière, en juillet par exemple, que CloudCode était un outil formidable, imaginez si vous l'aviez utilisé directement, à quel niveau vous seriez aujourd'hui où tout le monde parle de cet outil. Donc mettez-vous, je pense, à OpenClaw, vous ne serez pas déçus. Et vous pouvez installer le plugin Manifest, je vous mettrai un lien peut-être dans la description, afin de réduire drastiquement vos coûts d'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai testé OpenClaw, j'avais branché un modèle d'Anthropic et j'ai cramé $25 de token en moins de 24 heures. Donc ça va très vite et au final, c'était pas vraiment rentable pour moi par rapport aux tâches qui avaient été effectuées. Maintenant, OpenClaw, Cloud Dispatch, qui vous permet maintenant de contrôler carrément votre ordinateur à distance. J'ai vu que Perplexity ont lancé également Computer, qui est la même chose que Cloud Dispatch, je pense, et que OpenClaw. C'est-à-dire que c'est un agent IA qui peut faire tout pour vous. Perplexity, vous savez, c'est cette IA qui est connectée à Internet, qui du coup n'a plus vraiment de place dans ce marché, puisque toutes les IA maintenant se connectent à Internet, donc ils n'ont plus d'avantages compétitifs comme avant. Eh bien, ils ont lancé Computer, donc ils se lancent dans la course à l'IA agentique, qui est vraiment un marché immense, donc il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent dedans. Personnellement, je ne crois pas que Cloud Dispatch, en gros, que contrôler son ordinateur à distance soit vraiment bénéfique. Laissez-moi vous expliquer mon point de vue, je sais que c'est très impopulaire, mais beaucoup de gens vont vouloir automatiser leur travail effectivement à distance. Imaginez, vous êtes au ski, vous descendez une piste et sur la remontée mécanique, vous prenez votre téléphone et vous dites à Claude quoi faire. Lui a travaillé pendant que vous descendiez la piste. Vous contrôlez le résultat du travail et vous lui dites la suite. Très bien, c'est génial, ça vous fait gagner du temps. Mais je pense que ça fonctionne que pour des tâches qui sont relativement facilement automatisable et à faible valeur ajoutée. En fait, parfois, quand vous développez par exemple un logiciel complexe, vous avez quand même besoin d'être focus, d'être concentré. Si vous êtes diverti, eh bien, vous allez certes prompter à l'IA, mais je pense que le résultat ne sera pas le plus précis possible. Donc ça fonctionne pour beaucoup de choses, mais je ne pense pas pour tout ou parfois être devant son PC concentré. C'est vraiment bénéfique et je préfère faire une session de 3 heures à fond avec mes agents d'intelligence artificielle que partir me balader et en fait envoyer des messages de temps à autre à une intelligence artificielle qui va certes faire des choses, mais moi je vais pas pleinement profiter de ma randonnée par exemple. Et j'ai testé cette expérience, j'ai testé l'expérience de partir me balader et de parler à une intelligence artificielle qui va faire des trucs pour moi. Oui, c'est très bien, mais c'est vraiment dommage et puis on n'est pas très efficace, pas très concentré et au final, on fait du travail qui est moins bon que ce qu'on ferait si on était devant l'ordinateur. Et en plus, on ne profite pas à 100% de son activité pour se vider la tête. On pense quand même au travail. Donc, je suis mitigé par rapport à ça. Certes, ça permettra d'automatiser tout un pan du travail et certains travails qui sont facilement automatisables. Mais je pense que c'est si ça permet d'automatiser ça, eh bien, l'étape d'après, c'est qu'en fait, ça le fasse tout seul sans qu'on puisse communiquer avec l'intelligence artificielle pour lui dire quoi faire, parce qu'elle va apprendre comment faire et quoi faire. Donc la prochaine étape, ce serait carrément de se passer de vous, en fait. Donc si vous faites ça sur votre ordi, dites-vous que si c'est si facile pour une intelligence artificielle de contrôler votre ordi à distance afin de faire des choses et d'automatiser votre travail, eh bien dites-vous que la prochaine étape, c'est de le faire sans vous. Et donc, remettez-vous en question, remettez votre travail en question. Je sais que la majorité des travaux de bureau sont automatisables et vont être automatisés par l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il faut que vous appreniez à vous servir de ces outils. Et c'est pourquoi vous devez écouter ce podcast en particulier et puis rester attentif. Mais voilà, je préfère mettre en garde là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet qui est très, très difficile. Le patron d'Anthropique lui-même, Dario Amodei, tire la sonnette d'alarme là-dessus. Beaucoup de travail vont être remplacés ou carrément supprimés de travail humain. Et ça s'applique notamment à ceux qui rentrent dans le marché du travail, les juniors. Donc là, il y a un vrai problème sociétal. Il faut que les politiques s'en emparent. Et je pense que, en fait, l'intelligence artificielle, c'est le plus gros sujet politique du moment. Je ne comprends même pas que aux élections municipales, on se batte pour agrandir les trottoirs. Honnêtement, unissons-nous et discutons de comment l'intelligence artificielle va s'intégrer dans la société. Si on ne le fait pas, elle va détruire vraiment la vie de certaines personnes. Alors, ce sera temporaire, peut-être, mais il y aura des dégâts. Donc, il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. C'est pour moi le problème numéro 1. Je suis désolé, mais tout le reste à côté, c'est pas très important. Peut-être la situation économique également, mais en fait, l'intelligence artificielle va impacter la situation économique. Donc, l'intelligence artificielle, pour moi, est le sujet numéro 1. Je ne suis pas un spécialiste des impacts sur la société, mais il se trouve que le dernier prix Nobel d'économie, Philippe Agion, qui est français, eh bien, parle de l'intelligence artificielle dans ses travaux et il a une vision plutôt, il me semble que c'est la vision de Schopenhauer, si je dis pas de bêtises, mais qui est la destruction créatrice, c'est-à-dire que lui pense vraiment et l'appuie avec ses travaux que l'intelligence artificielle va détruire des emplois, mais également en créer. Ça s'appelle la destruction créatrice, c'est ce qui s'est passé lors de la révolution industrielle, lors de l'apparition de l'écriture, lors de l'apparition de l'électricité, où vous avez des travaux qui ont disparu, des travaux peut-être, je ne sais pas comment on dit, et vous en avez d'autres qui sont apparus, par exemple le métier de développeur mobile, développeur d'applications mobiles, eh bien c'est un métier qui n'existait juste pas avant 2005. Donc, imaginez aujourd'hui le nombre de personnes qui travaillent dans cette industrie, le nombre de personnes qui sont rémunérées, la valeur créée. Donc, là-dessus, je ne pense pas non plus qu'il faut paniquer, mais attention, si vous vous reposez trop sur vos lauriers, si vous avez un travail qui est vraiment un travail qui ne vous intéresse pas et que vous faites juste pour subvenir à vos besoins, et donc, en fait, vous n'êtes pas extrêmement compétent parce que c'est pas quelque chose qui vous passionne et donc vous y passez pas énormément d'heures, vous faites le strict minimum. Et en plus, c'est un travail de bureau. Donc attention là-dessus, ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Je préfère mettre en garde. Formez-vous à l'IA de toute façon. Franchement, automatiser les tâches répétitives, pour moi, c'est clairement un progrès de l'humanité. Je suis désolé, mais avant, il y avait des gens au péage qui simplement récoltaient 2 euros et vous ouvrez la barrière. Maintenant, c'est automatique. Mais est-ce que vous pensiez que c'était un travail épanouissant, stimulant du point de vue intellectuel? Il n'y avait même pas de conversation avec les gens qui s'arrêtaient. C'était quasiment robotisé, mais il y avait encore des personnes qui le faisaient. Donc, pareil pour les caissiers et les caissières. Je ne pense pas que ce soit le métier le plus épanouissant. Donc, si ça peut détruire ces métiers-là, mais pour en créer d'autres plus intéressants, où les gens vont demander aux IA de faire des choses et donc faire preuve d'imagination, de créativité, etc., alors pour moi, c'est un immense progrès que l'intelligence artificielle. Donc, pour ça, il faut simplement accompagner les personnes qui vont avoir leur métier transformé, impacté. Mais il faut vraiment croire en cette vision de l'avenir qui est belle, qui va laisser beaucoup plus de temps aux humains pour faire leurs activités favorites, parce que l'intelligence artificielle va s'occuper du travail répétitif, lourd. Et pour ça, il faut quand même que ça passe par de la politique, parce que au final, ces règles, elles s'appliquent à tous. Et donc, il faut façonner des règles. J'espère que la prochaine élection présidentielle parlera beaucoup d'intelligence artificielle. En tout cas, moi, je crois vraiment à un futur très beau. C'est d'ailleurs la vision d'Elon Musk qui pense que les gens n'auront plus besoin de travailler plus tard. Ce sera facultatif. Ceux qui voudront travailler pourront, à condition qu'ils soient meilleurs que les intelligences artificielles dans le domaine, mais il y aura forcément des experts qui seront meilleurs, je pense. Et ceux qui ne voudront pas travailler, eh bien, auront un revenu universel, c'est ce dont a parlé Elon Musk, et j'espère que ça se mettra en place. J'espère vraiment que les richesses ne vont pas être toutes captées, les moyens de production, par les vainqueurs de cette course folle à l'intelligence artificielle, et qu'il y aura une redistribution afin que chacun puisse subvenir à ses besoins et un revenu universel afin qu'ils n'aient plus besoin de travailler, qu'ils puissent s'occuper de leur famille, faire leur sport, faire de la peinture s'ils veulent, par exemple, ou d'autres loisirs créatifs. Et l'intelligence artificielle et les robots humanoïdes vont prendre en charge toutes les tâches du quotidien, que nous vivrons dans l'abondance, parce que lorsque vous aurez un humanoïde à la maison qui va vous faire votre machine à laver, vos lave-vaisselle, lorsque vous aurez un agent personnel IA qui fera tout ce que vous voulez, qui vous commandera vos courses, qui seront livrées, vous aurez beaucoup plus de temps pour faire ce dont on n'a pas le temps actuellement, ce dont on manque de temps, c'est-à-dire passer du temps avec ses enfants, c'est-à-dire se balader en nature, des choses qui sont essentielles aussi aux hommes. Alors, cela peut créer quand même beaucoup d'angoisse, un manque de mission, un manque de d'ambition, puisque forcément, quand on n'a plus vraiment d'objectifs professionnels, on peut très vite devenir un petit peu dépressif. Donc ça, ce sera également des problématiques à gérer. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ceux qui voudront pourront travailler. Et voilà, je pense que je vais terminer l'épisode là-dessus. Je me suis un petit peu perdu dans des débats philosophiques, mais je voulais vraiment rassurer les gens, parce que on voit que les vendeurs de formation en profitent pour créer une panique. L'intelligence artificielle est la plus grande transformation, je pense, depuis l'invention peut-être de l'électricité, voire même une plus grande transformation que ça, parce qu'elle est plus rapide, comme le disait également Dario Amodei, le patron d'Anthropique. C'est plus rapide que les autres transformations. C'est exponentiel, donc il faut s'y préparer. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast. N'hésitez pas à me faire parvenir des sujets sur lesquels vous aimeriez que j'intervienne. Si vous aimeriez que je parle plus des outils et comment les utiliser, j'ai peut-être prévu de rentrer dans les détails sur OpenClaw, CloudCode, etc. dans les prochains épisodes, mais je voulais déjà poser les bases. Je vous dis à bientôt, c'était Guillaume. Ciao.